Bonsoir. Donc, on m'avait prévu une introduction assez courte, puisque normalement Vincent devait prendre la parole derrière. Donc, je vais faire, peut-être s'avancer un petit peu. Et à la limite, en profiter quand il n'est pas arrivé pour laisser la parole si vous avez des questions. Donc, le logiciel libre. Sauf que tout le monde avait entendu parler, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a déjà utilisé, au moins je suis sûr, parce que tout le monde ici a déjà utilisé sur Internet. Le livre, qu'est-ce que le livre? Vous m'avez intitulé ce premier slide, le commencement n'est qu'une suite, en fait, puisque je pars de l'origine du logiciel libre avec la création par Charles-Mann. Sauf que vous avez dû entendre parler de Charles-Mann, qui était un enseignant-chercheur en RIT, donc dans les années 80. Et pour la petite histoire, comment est-ce qu'il est apparu de logiciel libre? C'est arrivé par lui sur une anecdote. Qui était en fait dans les années 80, la problématique n'était pas de faire du logiciel, il était d'avoir du matériel. Donc en fait, toute l'énergie informatique à l'époque était vraiment concentrée sur la construction des ordinateurs, et le logiciel libre était un point de détail pour ajouter, enfin le logiciel était un point de détail pour ajouter qui permettait de faire fonctionner ces ordinateurs. Et dans les années 80, donc, Richard Stallman travaillait au MIT, une grande entreprise leur offre du matériel. Ce matériel, c'était une imprimante qui tombe régulièrement en panne. Au MIT, vous devez vous douter que les gens qui travaillent là-bas étaient suffisamment compétents pour dépanner les imprimantes. Donc, Richard Stallman essaye de dépanner ces imprimantes de son laboratoire et se retrouve face à un cas qu'il n'avait encore jamais vécu avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de souche. C'est-à-dire qu'il y avait une imprimante, il y avait visiblement un fermoir qui était dedans, il était incapable de partir du source pour corriger le bug. Donc, il va voir ses collègues d'un laboratoire adjacent qui sait avoir la même imprimante, et lui demande je sais que tu as la même imprimante, il paraît que tu as le source, donne-moi le source, comme ça je vais pouvoir corriger les bugs qu'on a dans nos tableaux. Et là, Richard se retrouve à un cas qu'il n'avait jamais vu avant, et surtout face à un refus. La personne lui dit non, je ne te donnerai pas le source qui est dans ma possession. Premier nom de sa vie, puisqu'à l'époque, tout le monde se dit logiciel. Comme je vous disais, la problématique, c'est de faire du matériel, c'est pas de faire du logiciel. Donc, comme le logiciel n'est pas important, entre guillemets, à l'époque, tous les sources circulent tout le temps. C'est la façon de faire du logiciel dans les années 80. Il lui dit, mais tu veux pas me donner des sources, mais pourquoi? Et là, donc son collègue lui dit avoir signé un NDA, un Non-Disclosure Agreement, un accord de confidentialité, en fait, avec le fournisseur de l'imprimante. Le premier logiciel propriétaire. Donc, Richard Stallman voit à cette vision de se dire, bah, effectivement, là, on a un premier bout de logiciel sur lequel on ne peut plus intervenir. Demain, pourquoi ce ne sera pas le logiciel d'exploitation? Pourquoi ce ne sera pas l'éditeur? Pourquoi ce ne sera pas le compilateur? Donc, prend la décision à l'époque de ne plus travailler au MIT, puisque le MIT accepte que ses chercheurs sont des liés, et décide, donc, en 1983, d'écrire un système libre, complet, sur un bas de logiciel. Pour cela, donc, il se lance dans la création et l'écriture du projet GNU. Donc, 83, le projet GNU, ça prend une phase dans toute sa vie. Il commence par Emacs. Vous avez entendu par Emacs. J'espère. VI. Voilà. On rigole toujours dans Emacs VI. Donc, l'écriture du projet GNU. Et 91, deuxième grande date, Linus Torvalds, étudiant donc, finlandais qui étudie Unix. À l'école, décide, puisqu'il est très consciencieux, de continuer à étudier le soir aussi, mais n'a pas les moyens de se payer un Unix et n'a pas envie d'avoir une copie non officielle d'un Unix chez lui, donc se décide d'écrire lui le noyau. Juste le noyau, il part de Unix qu'il étudiait à l'école et décide donc d'écrire un noyau. Il écrit ça évidemment avec tous les outils qui sont maintenant connus et utilisables. Et en 91, on finit par écrire la première version du noyau, qui est la dernière pierre en fait, du projet GNU, qui à l'époque contient tout ce qu'il faut, compilateur, librairie, éditeur, tout l'ensemble des logiciels pour faire fonctionner un ordinateur, sauf le noyau. Et Torvalds a la bonne idée en 91 de mettre le noyau, pas qu'il ait utilisé le projet GNU, on imagine, sous la licence GPL. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc là, on est en 91. Après, arrive dans les années fin 90, donc les premières distributions, Red Hat, les Mandrake en France, Debian pour la partie communautaire. Et donc, cet aspect, enfin la dernière fois, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus non plus, parce qu'on fait ça court, sur l'aspect de la distribution, qui est des sociétés qui disent, voilà, nous allons prendre tous les outils libres qui existent, on va les mettre sous une forme qui est installable en quelques commandes de base, mettre ça sur un CD, commercialiser ça, et on a cet appareil, la distribution. Donc la distribution, c'est vraiment la partie qui permet en fait d'avoir que le logiciel libre, un système d'utilisation libre soit accessible à tout un chacun. Le quatrième point à appliquer, c'est le logiciel libre est un carré de Open Source et un rectangle, pour juste faire un point, la différence, puisqu'on parle souvent de logiciel libre ou de Open Source, ce n'est pas la même chose. C'est l'Open Source, en fait, c'est un rectangle, c'est-à-dire qu'on va définir les quatre libertés d'un point de vue technique. Si vous faites de la technique, si vous ne faites qu'à la technique, vous faites de l'Open Source. Si vous décidez d'aller prendre le deuxième mot, dans le logiciel libre, c'est-à-dire le deuxième mot qui est libre, si vous faites du logiciel libre par conviction, par philosophie, vous faites du logiciel libre. C'est-à-dire que dans l'open source, il faut avoir rentrer des aspects techniques. Donc deux courants, le courant open source, le courant logiciel libre, le courant logiciel libre, le courant philosophique, le courant open source, le courant technique. Donc évidemment, si on recroise, ils sont recroisés en permanence. Donc les quatre libertés, puisque si on définit un logiciel qui se définit par ces quatre libertés, la liberté zéro. Donc la liberté d'usage, qui est une des plus importantes, qui est pourtant une moins évidente en fait, puisque dans cette première liberté, donc c'est la liberté d'utiliser le logiciel, évidemment si on ne fait pas grand chose, mais pour quel usage que ce soit, et ça c'est très important, pour quel usage que ce soit. Puisqu'on voit dans beaucoup de licences propriétaires en fait des limitations temporelles. Ce que j'appelle des limitations temporelles, c'est-à-dire qu'on vous interdit, par exemple, certains logiciels de présentation que vous ne pouvez pas utiliser pour faire une présentation qui critiquerait la compagnie qui édite le logiciel. C'est-à-dire que là, vous avez la liberté d'utiliser un autre logiciel, mais pas pour tous les usages. Dans les usages, c'est tous les usages. Et dans tous les usages, inclut aussi l'interdiction de mettre des limitations éthiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire un logiciel libre et dire, voilà, je refuse que mon logiciel soit utilisé par le ministère. Je refuse que mon logiciel soit utilisé pour mener à bien des attaques terroristes, par exemple. Donc c'est vraiment pour tous les usages. Je vois un monsieur qui sort du bête, mais c'est important pour tous les usages. La liberté 1, la deuxième liberté, donc, qui est la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses propres besoins. Donc dans cette liberté-là, on arrive donc à l'accès au code source. Si vous n'avez pas accès au code source, vous ne pouvez pas étudier le logiciel. Vous pouvez les attendre, mais dans la cas pratique, cette liberté est indispensable. L'accès au code source, oui, si vous faites, donc là on peut revenir un petit peu sur ce parallèle open source. Logiciel libre, un produit open source, c'est-à-dire on va vous donner accès au code source, vous allez avoir des millions de codes non indentés, non commentés. Techniquement, vous avez la liberté, mais pratiquement, vous ne l'avez pas, parce qu'un code source qui fait 3 millions de lignes sans commentaires, ça ne vous sert à rien, finalement. Puisque vous avez 15 ans à comprendre, et ces 15 ans-là, vous auriez pu reconstruire, enfin, réécrire ce programme que vous essayez de réutiliser. Donc, accès au code source, oui, mais code source commenté. Et de la documentation dans le code qui est généralement, enfin, qui est une des façons de faire en ligne, on inclut toujours la documentation dans le code. On ne donne pas un code sans documentation. La troisième liberté, donc, qui est la liberté de redistribution, c'est assez simple, c'est-à-dire que je peux prendre une copie du programme et je peux la donner à qui je veux. Pour faire une, pour faire 10, pour faire 100. Et je peux aussi la distribuer de la façon que je veux. Donc par quelque méthode technique que je veux, par faire copier ou par tous les moyens qui existent. Dernière liberté, la liberté d'améliorer le programme et de diffuser les améliorations. C'est-à-dire, en fin de compte, vous pouvez modifier le logiciel libre, vous pouvez le modifier, et surtout, vous pouvez redistribuer vos modifications. On verra un petit peu plus loin quand on parlera des licences. Une fois encore, cette licence, il faut garder à l'esprit sur la façon dont on peut redistribuer les modifications d'un programme. C'est pas toujours aussi évident que n'y paraît. Là encore, l'accès au code source, c'est une condition qui est évidemment nécessaire. Et donc, sous quelle licence on redistribuera les modifications? On va le voir un petit peu tout à l'heure, puisque normalement je laisse la parole à Vincent ici. Donc, à la limite, vous laissez 5 minutes si vous avez des questions sur ces 4 libertés ou 4 syndicats logiciels libres ou d'open source. Tout le monde a répondu. Donc, pour parler des licences, je vais prendre deux approches. La première approche, c'est l'approche philosophique. Parce qu'il y a deux types. Il y a vraiment deux types de licences logicielles. Il y a ce qu'on appelle les copyleft. Tout le monde aura vu le mot copyright. Dans lequel on va inclure donc, justement toutes les licences issues de l'FSF et du projet bienvenu, donc la GPL, enfin, les GPL, plusieurs versions. Les LGPL, la GPL, la toute nouvelle, et la CECIL, la petite française. Les copyleft, leur principale particularité, c'est la protection des libertés. En fait, je voulais au début sous-titrer ce transparent sur « Est-on libre doté de la liberté ?» Parce que si vous savez répondre à cette question, en fait, vous allez tout de suite choisir entre une copyleft et une permission. Est-ce que vous êtes libre doté de la liberté ou pas ? C'est-à-dire, quand vous recevez un logiciel libre, on vous donne des droits d'usage sous la licence, qui implique la liberté, mais est-ce qu'on vous laisse aussi la possibilité de redistribuer ensuite ce logiciel en autant de ces libertés ? Si vous dites non, si vous dites le logiciel que je reçois a 4 libertés et je dois forcément retrouver ces 4 libertés sur la version que je vais sur la version que je vais modifier, que je vais redistribuer, alors on prendrait licence copyleft. C'est-à-dire que les licences copyleft se définissent comme ceci, par ces 4 libertés plus la contrainte qui vous empêche d'enlever une des libertés. Et donc les permissives, typiquement les licences PLD où tout est possible. La piste des CPIP d'un grand OS majoritaire est une piste qui a été écrite pour un projet PLD qui a été inclus dans le logiciel propriétaire. Vous pouvez parfaitement le faire, c'est légal, si c'est une licence PLD. La deuxième approche, c'est l'approche historique. J'ai pris cette approche historique parce que à partir du moment où vous commencerez à vous intéresser aux licences libres, vous verrez que les licences libres, il y en a beaucoup. On les compte par centaines aujourd'hui. On peut quand même les regrouper dans 54 catégories. Tout là encore, les licences GNU, si vous n'avez pas de licences libres sur le projet GNU. Les licences académiques, les communautaires, les institutionnelles et les dernières, dans le sens qui apparaissent, les licences culturelles. Donc je vais développer ces 5 points. Les licences GNU, la toute première licence GNU, c'était la NU et même Public License, qui a disparu aujourd'hui, qui était la licence qui a été Richard Stallman quand il a commencé à écrire le projet GNU et le premier logiciel qui était Emacs. Donc ensuite, la GPL V1 en 91, suivi tout de suite de la LGPL. Donc la LGPL, c'est la lecteur générale de NU Public License. La GPL V2, donc on a mis 6 ans au sein de l'FSF, donc Richard Stallman et Ben Wolken, qui est le juriste de l'FSF, à remanier la GPL V1 la pété en 97. J'ai mis une petite étoile devant, puisque j'ai inclus GPL, la GPL, toutes les GPL. Et la GPL V3, toutefois, qui vient de sortir en 2007, plus la Fleuro GPL. Donc, dans la deuxième catégorie des licences, c'est ce qu'on appelle licence académique. Qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous avez connu les dates, quoi, des années 80, 91, fin des années 90, tout le logiciel libre est apparu, le logiciel libre en majorité est apparu et s'est développé en même temps qu'Internet. Les deux se sont vraiment développés ensemble. Internet n'aurait pas existé sans logiciel libre, le logiciel libre n'aurait pas existé sans Internet. Donc, ce qu'on appelle les licences académiques, en fin de compte, c'est des licences des premiers outils. des piliers, c'est-à-dire BIME, la plus TCP, SendMail, PLD, des premiers outils qui sont apparus et qui se sont dit, bah ouais, on écrit des outils, on va les rendre libres, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quoi. Donc ils ont écrit des licences à chaque fois pour un outil. Et là, on est vraiment sur des licences très très simples, très basiques, c'est juste une liste, de, voilà, on donne tel et tel et tel droit, il n'y a aucune recherche dans, derrière cette licence, en fait. C'est un outil technique qui est rajouté, qui est mis avec le bout de code pour dire, voilà, je libère, enfin, mon outil est libre, voilà ce que vous pouvez en faire. Donc ça, c'est des licences qui existent, mais qui ne sont pas forcément réutilisables par nos outils, en fait. Tout comme les licences communautaires. On va avoir l'artistique license et l'attache license, qui sont une copie de licences très liées au projet. Quoi. Elles sont différentes puisque des projets comme Apache sont vraiment rentrés là dans l'ère de la communauté, ce n'était pas forcément le cas d'avant. Les outils BSD étaient faits dans les labos par un nombre de personnes en fait. Donc là encore, on a eu des licences qui sont nées avec les outils, donc comme l'artistique ou l'Apache, qui sont des licences vraiment liés à l'outil, à la façon de travailler de la communauté, qui sont peu conciliables avec les licences copyleft assez lourdes. Ensuite, dans la troisième catégorie, les institutionnels. Les institutionnels, pourquoi? C'est l'histoire Netscape Mozilla. Netscape libère enfin, le produit propriétaire, le commercial, on pourrait dire. Donc, société commerciale qui fait un grand pas et qui va essayer de libérer ses outils, mais là, comment faire? Est-ce qu'on va réutiliser la DPL? C'est pas forcément la vision business corporate de l'institution Netscape à l'époque. Donc, une fois de plus, on va écrire, mais là, par contre, complètement, ce sera plus quelques lignes, comme on l'a vu avec les académiques, mais vraiment avec un cabinet juriste, c'est-à-dire qu'on va prendre les trois meilleurs cabinets d'avocats de la place de New York, on va leur dire, voilà, écrivez-nous une licence libre. Tout nouveau, tout frais, c'est pour les premières licences qui apparaissent comme ça, c'est intéressant à regarder. Et surtout aussi, c'est les premières ouvertures du monde de l'entreprise vers la communauté. Quand je parle de communauté, c'est communauté de logiciels libres, communauté d'Internet, enfin, cet ensemble non libre. Et toute dernière, les licences culturelles, les Creative Commons, donc là on sort un petit peu, je ne vais pas m'étendre, on sort un petit peu du monde du logiciel, qui sont les licences qui apparaissent pour les objets des biens culturels. Donc on a toute une définition des Creative Commons, je vais laisser la parole à...